parfait, donc l'identité et communautarisme. Est-ce que, pose tout de suite une question, je crois que vous m'entendez bien, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est est-ce qu'il y en a pour lequel le mot communautarisme ne veut rien dire? Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais n'hésitez pas à le dire, parce que j'ai eu l'impression que ce n'était pas évident. J'en prends note, et c'est pour ça que je commence comme ça. Hein, parce que je ne vais pas faire comme si tout était déjà clair. Je suppose aussi que, en revanche, je suppose que l'identité, vous savez peut-être un petit peu mieux ce que c'est. Votre identité, vos papiers d'identité, vous savez ce que c'est, je suppose. Hein, votre identité. À l'âge que vous avez, c'est pas certain que vous sachiez très bien qui vous êtes encore. Hein. L'âge de l'adolescence, c'est quand même un moment où on se cherche. Hein. Je pense que vous êtes des adolescents et que vous vous cherchez. Vous cherchez aussi peut-être par rapport à vos références familiales, par rapport aux références locales. Je suppose que vous considérez tous comme des Marseillais. Hein. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est votre identité. Alors, je vais essayer de vous parler rapidement et en essayant d'être clair des questions d'identité et des questions de communautarisme. Ce que je vous demande, puisque vous répondez très spontanément, ce que je vous demande, c'est quand il y a des mots que vous ne comprenez pas, arrêtez-moi pas à chaque mot hein, quand même, s'il vous plaît, hein, parce que ça serait trop facile, mais quand il y a des mots que vous ne comprenez pas, quand il y a des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander. Alors, hier, je parlais d'un autre sujet et j'ai employé le mot ambivalence. Hein. Et j'ai tout de suite senti, mais en plus je pouvais m'en douter, que beaucoup de gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc j'ai expliqué le mot sans qu'on me l'ait demandé. Mais encore une fois, je veux dire, réfléchir, c'est aussi apprendre le sens des mots, hein, et souvent des mots de nuances de langage ou de nuances de pensée qu'on n'a pas encore. Donc n'hésitez pas à demander quand quelque chose vous fait vraiment défaut et que ça vous rend inintelligible tout le développement. Alors je vous parlerai, je vais faire les choses graduellement, je vais vous parler de en trois ou quatre temps, je dévisse ça. Je vais vous parler en 3 ou 4 ans, je vais vous parler de l'identité, rapidement. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Je dirai quelques mots, pas beaucoup, la notion d'individu, parce que ça me permettra de parler de l'idée de communauté. Et puis, je vous parlerai, puisque c'est le sujet, de communautarisme. J'ai pas d'image, hein, parce que la réflexion philosophique, il n'y a pas tellement d'images. Hein, je veux dire, malheureusement, ça serait beaucoup plus drôle s'il y avait des images, mais il n'y a pas tellement d'images. C'est une question de réflexion. C'est pas, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la philosophie. Moi-même, qui en fait depuis 40 ans, je ne suis pas certain de savoir très bien ce que c'est. Mais on vous demande simplement d'essayer honnêtement de réfléchir. Hein, c'est pas au-dessus des capacités d'un être humain normal. Je veux dire, n'importe qui peut réfléchir en essayant de réfléchir par lui-même. Et c'est l'objet de ce que je vais vous présenter ici. Je vous ai dit d'ailleurs que j'ai fait l'expérience pendant 4 ans de faire des cours de philosophie avec des collégiens, donc des gens beaucoup plus jeunes que vous, des 6e, des 5e, 4e et des 3e. Et que ils comprenaient des choses assez compliquées et assez abstraites. Alors je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que l'identité, ensuite de la communauté, individu et communauté, et finalement je vous parlerai du communautarisme. Alors l'identité, je dirais que ça s'applique à toutes les choses. Une chose, elle est au moins identique à elle-même. C'est la définition de ce la plus simple, je dirais la seule qui soit juste, une chose est identique à elle-même au moment où on la considère. Mais en fait, je veux dire, une chose est identique à elle-même que dans l'instant, en quelque sorte. À partir du moment où il y a du temps qui intervient, eh bien, les choses changent. C'est pas pour ça qu'on va pas dire qu'elles sont identiques, qu'elles ne sont pas identiques, mais on va être obligé d'aménager la notion d'identité. Je prends le cas, par exemple, de votre... Prenez une construction, une maison, par exemple, une maison qu'on répare, qu'on rénove, qu'on modifie, elle reste, jusqu'à un certain point, la même maison. Elle garde une certaine identité, et pourtant, quelquefois, elle peut avoir été considérablement changé. On peut avoir entièrement restauré, entièrement rénové les choses. Donc on est obligé, si vous voulez, d'avoir des critères de l'identité qui soient des critères, je dirais, adaptés à chaque sorte de choses. Et quand on parle des... en l'occurrence, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'identité des maisons ou l'identité des voitures. Ce qui nous intéresse, c'est notre identité à nous. Quand on parle de l'identité humaine, bon, qu'est-ce qu'on va prendre en considération pour l'identité humaine? On va prendre en considération... Je vais tout de suite enlever un papier. Hein, on va prendre en considération l'identité génétique, c'est-à-dire votre patrimoine héréditaire. Ça revient au même, l'identité génétique, ça revient au même que votre carte d'identité. Hein, c'est-à-dire que carte d'identité, elle indique de qui vous êtes le fils ou la fille, et donc elle indique en fait votre identité génétique, hein, votre filiation, de qui vous êtes fils ou fille, même si vous êtes fils ou fille adoptive. Hein, mais il y a une identité génétique. Ensuite, vous avez une identité corporelle. Ben, l'identité génétique, c'est l'identité de vos chromosomes, hein, l'identité de vos gènes, l'identité de votre ADN, hein, c'est ça votre identité génétique. La plupart du temps, si vous n'êtes pas un enfant adoptif, si vous êtes un enfant né par les voies de la reproduction naturelle, vous avez l'identité génétique que vous ont donné vos parents. Hein, vos parents qui sont vos parents, je dirais, à la fois légaux et vos parents physiologiques. Bon, vous avez une identité corporelle. Alors ça, je dirais que c'est une question. L'identité corporelle, on a tous l'impression qu'on reste les mêmes, mais en même temps, on change considérablement au fil de la vie. Hein, vous êtes, vous, dans une période de changement très important, la période de l'adolescence, mais vous n'êtes pas physiquement, même si vous avez le même corps, vous n'êtes pas physiquement semblable à ce que vous étiez quand vous étiez enfant, et quand dans 20 ans ou 30 ans vous serez des adultes, disons, mûrs, vous serez les mêmes, vous aurez le même corps, mais en même temps, ça sera pas, vous aurez considérablement changé, et il faudra faire des efforts pour vous retrouver sur une photo de maintenant. Hein, je ne sais pas s'il y a encore des photos de classe, parce que ça se fait encore, mais souvent quand on voit des photos de classe d'hommes adultes ou de femmes adultes, et qu'on les cherche, donc, à quoi ils ressemblaient quand ils étaient jeunes, ils ont bien une identité corporelle qui reste, qui demeure, mais cette identité corporelle, elle a quand même aussi considérablement changé. Et puis, il y a une identité qui est très importante, et vous allez voir où je vais emmener l'identité, qui est une identité qui tient à la mémoire. À la mémoire, et où elle a, je vais écrire CS, où elle a conscience. C'est-à-dire, qui vous avez le sentiment d'être. Qui vous êtes. Or, qui vous êtes, c'est pas seulement je suis moi. Hein. Ça, c'est l'expression, je dirais, la plus vide de l'identité. Je suis moi. Mais je suis moi qui, c'est-à-dire quelqu'un qui est né en telle année, qui a eu telles études, qui a eu tel camarade, qui lui est arrivé telles histoires, qui a eu tels amours, qui a fait tel métier, etc., etc. C'est ce que j'appelle une identité liée à la mémoire. Et d'ailleurs, ce que je ne vous souhaite pas, mais que malheureusement vous ferez à un moment ou à un autre, compte tenu de l'évolution de nos sociétés, l'expérience, c'est que lorsque quelqu'un perd la conscience et perd la mémoire, lorsque, par exemple, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, eh bien, d'une certaine manière, il ne sait littéralement plus qui il est. Moi, il m'est arrivé de fréquenter des personnes qui avaient un état avancé d'Alzheimer, et c'était des personnes qui n'avaient plus de mémoire, qui ne savaient plus littéralement qui elles étaient. Elles pouvaient répondre à des commandements. On pouvait leur dire « Levez-vous ». Prenez cette assiette, ça ils comprenaient, mais se souvenaient plus ce qu'ils avaient fait juste avant, et ils se souvenaient plus de qui ils étaient. Ils n'avaient plus leur nom, et d'une certaine manière, ils ne se reconnaissaient pas dans un miroir, vous voyez. Donc, l'identité par rapport à la mémoire est très importante, et il y a beaucoup de philosophes, il y a un philosophe notamment, un philosophe anglais qui s'appelait Locke, j'en profite pour vous donner L-O-C-K-E, Locke, qui disait l'identité personnelle, c'est, c'est ce qui tient de la mémoire. Le jour où on a plus de mémoire, on n'a plus d'identité. De ce côté-là, il était tout à fait en avance. Bon, c'était un philosophe du XVIIe siècle. Hein. Il était tout à fait en avance. Et il disait même une chose, il disait, quand on change de mémoire, imaginez que vous ayez les souvenirs de quelqu'un d'autre. Eh bien, vous devenez cette autre personne. Il y a quelqu'un qui, certains cas qu'on considère comme pathologie, c'est des cas de personnes qui croient qu'ils sont Napoléon. Hein, imaginons quelqu'un qui se prendrait pour Napoléon, mais pas seulement pour Napoléon, qui dirait, je me souviens que j'étais à la bataille d'Austerlitz, je me souviens que j'ai été aux pyramides, je me souviens que j'ai participé au Sacre, je me souviens que j'ai épousé Joséphine de Beauharnais, je me souviens que j'ai perdu la bataille de Waterloo. Eh bien, cette personne serait Napoléon. Hein. Alors, ce que vous voyez bien, c'est que l'identité génétique, elle n'y serait pas. Une personne qui croirait qu'il est Napoléon n'aurait pas les mêmes gènes, l'identité de Napoléon. L'identité corporelle, elle n'y serait pas, mais il y aurait cet élément très important qui est l'identité de la mémoire. Et donc, d'une certaine manière, pour avoir une identité, il faut un peu tout ça. Il faut avoir cette identité de mémoire, cette identité de corps, qui encore une fois évolue dans la vie, et cette identité de... génétique de détermination corporelle. Alors ça, c'est pour les individus. Mais ce que je dis sur les identités, maintenant, on peut le transposer au groupe. Et c'est là où on va s'approcher de la notion de communauté. Au groupe. Pourquoi ? Parce qu'un groupe, on peut se poser la question de quelle est l'identité d'un groupe. Quelle est l'identité d'un groupe? Alors, on peut... Vous allez voir, ça va nous mener à réfléchir sur la question de nation, sur des choses comme ça. L'identité d'un groupe, je dirais que ce qui caractérise un groupe du point de vue physique, c'est les gens qui le composent. C'est les composants. C'est-à-dire, si votre groupe est constitué, je dirais par exemple l'identité... Je vais prendre un exemple qui ici, c'est pas pour vous faire plaisir, mais j'ai beaucoup joué au football, j'ai habité Marseille, donc je peux quand même un peu en parler un petit peu. Mais l'identité de l'Olympique de Marseille, c'est, en un certain sens, c'est l'ensemble des gens qui font partie de l'équipe de football. C'est ça l'identité du groupe. C'est l'ensemble des gens qui sont dans l'équipe, ceux qui jouent, ceux qui sont remplaçants, ceux qui sont susceptibles d'être remplaçants. Éventuellement, quelquefois, il y a des gens qui vous diront que dans l'identité de ce groupe, il y a aussi les anciens joueurs. Il y avait, dans l'identité, il y a Zidane, il y a Drogba. Drogba, par exemple, fait partie toujours de l'identité de l'Olympique de Marseille. Il n'y est plus pour de bon. Et donc, l'identité physique d'un groupe, c'est les gens qui le composent. Alors, vous pouvez, jusqu'à un certain point, vous pouvez changer les gens. C'est ce qui se passe pour une équipe de foot. On n'arrête pas de changer les gens. Le groupe demeure, mais il ne demeure pas physiquement. En revanche, le groupe, il va demeurer, cette fois-ci, du point de vue de sa mémoire. C'est-à-dire, l'Olympique de Marseille, c'est plus que les joueurs qu'il compose, c'est son histoire, c'est ses supporters, c'est les gens qui adhèrent à toute cette... qui sont aficionados à l'Olympique de Marseille, c'est les gens qui se retrouvent dans l'identité, les supporters qui s'identifient à l'Olympique de Marseille. Et donc, je dirais que pour un groupe, on a à peu près les mêmes caractéristiques. On n'a pas... Il y a des gens dans les théories racistes, qui diraient que l'identité d'un groupe, c'est aussi l'identité génétique des gens qui en font partie. Alors, dans le cas de l'Olympique de Marseille, compte tenu de la diversité du recrutement, ça ne voudrait rien dire. Mais je vous signale que, par exemple, au Pays Basque, l'équipe de l'Atlético de Bilbao n'emploie que des joueurs basques. C'est-à-dire que c'est une équipe ethnique. Elle n'emploie pas des joueurs africains, n'emploie pas des joueurs espagnols, surtout pas des espagnols, mais il n'y a que des joueurs basques qui jouent dans l'équipe de l'Atlético de Bilbao. Et donc, ça serait l'équivalent d'identité génétique pour un individu. Et on est vraiment là dans le cas d'un groupe qui aurait une réalité raciale, en quelque sorte. Mais la plupart du temps, pour les groupes, Dieu merci, on ne s'intéresse pas du tout à l'identité génétique, on s'intéresse à les gens qui le composent, et puis, je dirais, à tout ce qui fait la mémoire, la communauté, les souvenirs. Et du coup, c'est ce qui nous mène, quand on réfléchit par exemple à la nation, hein, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça, hein, mais dans le cadre de la nation, il y a des gens qui définissent la nation par son histoire. Son histoire, c'est l'équivalent d'une mémoire. C'est la mémoire, votre histoire en tant qu'individu, vous constitue votre identité. Votre histoire, tout ce qui vous est arrivé, tout ce qui s'est passé, tout ce qui fait que vous vous reconnaissez vous-même. Eh bien, de la même manière, pour certains groupes de communautés, et notamment pour les communautés nationales, il y a certaines personnes qui diront l'identité d'un groupe national, c'est son histoire. Du coup, ce que vous allez comprendre, c'est que à partir du moment où on n'est pas d'accord sur l'histoire, à partir du moment où on n'est pas d'accord en disant qu'est-ce que c'est que l'histoire de la France, mais il y a certains qui disent la révolution ça a été essentiel dans l'histoire de la France, et d'autres qui disent non, la révolution n'a pas été essentielle dans l'histoire de la France, il y en a d'autres qui disent Napoléon c'était une figure exceptionnelle de l'histoire de la France, d'autres qui disent Napoléon c'est une sorte de tyran du début du 19e siècle et qui a donné tous les mauvais exemples aux tyrans qui ont suivi. À partir du moment où on n'a pas la même conception de l'histoire, on n'a pas la même conception de la nation, ça vous comprendrez. Hein. Donc on a exactement la même, un parallèle entre identité génétique, identité corporelle, identité mémorielle, hein, j'emploie ce mot, mémoire, pour un individu, et pour un groupe, identité ethnique, identité physique, c'est-à-dire qui sont les membres du groupe, et puis l'identité mémorielle, son histoire. Et donc, ça nous permet de définir les communautés. Et vous allez définir les communautés. Bon, je mets deux feuilles à la fois, mais tant pis. Hein, on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. Une communauté, c'est un groupe d'hommes. Une communauté, c'est un groupe d'hommes. Eh bien, l'identité de la communauté, elle peut être ethnique, elle peut être, physique, et elle peut être mémorielle ou historique. Mémorielle ou historique. Alors, ce qui est clair que... Alors, dans l'histoire, on met beaucoup de choses. Dans l'histoire, on va mettre beaucoup de choses. On va mettre tout ce qui est la culture, les usages, les croyances, etc., etc. Tout ça est solidaire de notre conscience, de notre passé, de notre expérience du temps, etc. Donc, vous avez une possibilité de définir les communautés par ces trois traits. Alors, la définition ethnique, encore une fois, c'est celle qui est à la base très souvent des théories racistes, mais pas uniquement les théories racistes. Et qui est, ça, c'est une autre question, mais il y a eu une évolution de l'espèce humaine sur des dizaines et des centaines de milliers d'années, et que les groupes humains se sont beaucoup déplacés. Et puis, ils ont beaucoup changé aussi en termes de contact entre eux et de diversification. Il y a un certain nombre de groupes humains qui ont vécu de manière relativement stable et isolée dans des environnements géographiques où on peut dire qu'ils ont gardé un certain nombre de caractéristiques génétiques particulières. Hein. Génétique particulière, c'est pas forcément la couleur de la peau, ça peut être par exemple les groupes sanguins. Hein. On a fait beaucoup d'études sur la diversité humaine à partir de l'analyse des groupes sanguins et c'est vrai que certaines populations peuvent être identifiées par certaines propriétés de l'hémoglobine ou certaines propriétés immunologiques et ça correspond je dirais à l'identité génétique ou ethnique. Donc simplement quand on se braque là-dessus, quand on ne s'intéresse qu'à ça, on tombe très rapidement dans des thèses racistes, hein, en disant la chose la plus importante dans l'identité des groupes, c'est l'identité génétique. Non, parce que la réalité de l'espèce humaine, c'est qu'elle s'est beaucoup diversifiée, qu'elle s'est beaucoup mélangée, qu'elle a beaucoup voyagé aussi, qu'elle s'est beaucoup déplacée, et que donc elle a beaucoup mélangé ses patrimoines. hein, les patrimoines génétiques. Ensuite, il y a l'identité physique, c'est-à-dire tous les gens qui font partie d'une nation, qui font partie d'une région, qui font partie d'un quartier, ça c'est l'identité physique. Et puis vous avez tout ce qui est identité mémorielle, historique, culturelle, bien, tout ce qui fait partie de notre conscience d'appartenir à une communauté. Alors, c'est là où je vais en venir aux histoires du communautarisme. Donc je vais vous expliquer le terme pour ceux qui ne le connaissent pas, et je vais poser les questions qu'il pose une fois que vous aurez vu de quoi il s'agit. Alors, dans notre conception de la citoyenneté démocratique. Je vous demande de bien suivre ce que je vais dire, c'est pas très compliqué, mais ce qu'il faut, c'est suivre l'ensemble de la chaîne. Dans notre conception de la citoyenneté démocratique, qui n'est pas quelque chose de très ancien, hein, les peuples européens n'ont pas vécu toujours dans la citoyenneté démocratique. La citoyenneté démocratique, il y a l'épisode de la Grèce ancienne, etc., mais ça je ne veux pas en parler, mais la citoyenneté démocratique, elle commence à la fin du XVIIIe siècle, hein, pas avant. L'idée de la citoyenneté démocratique, c'est que le citoyen, c'est un individu qui est caractérisé uniquement par des propriétés abstraites. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est ? C'est un individu qui est raisonnable, qui utilise sa tête. Je crois qu'il n'y a pas de zen, hein, excusez-moi. Et c'est un individu qui est raisonnable, c'est-à-dire qui raisonne, qui calcule, qui essaye de penser ce qu'il fait, qui réfléchit en quelque sorte. C'est un individu qui est raisonnable. C'est un individu qui est autonome. Alors autonome, ça veut dire qui se dirige lui-même, qui est libre, autonome, libre, qui prend lui-même ses décisions. Et d'autre part, c'est un individu qui est volontaire, qui a une volonté. Il a une raison, il a une liberté, il a une volonté. Rien de plus. C'est-à-dire qu'on considère dans la théorie de la citoyenneté démocratique que l'individu, le citoyen, c'est un être abstrait qui est complètement coupé de tout groupe et de toute communauté. Hein? On ne demande pas à quel groupe ethnique il appartient. On ne demande pas à quel groupe géographique il appartient. On ne demande pas quelle mémoire il a, quelle est sa profession, quelle est sa culture, quelle est sa famille. On ne lui demande rien de tout ça. La seule chose qu'on prend en considération, c'est avez-vous une raison, êtes-vous libre et avez-vous une volonté. Ça, c'est la théorie démocratique, je dirais, dans ce qu'elle a d'une certaine manière de plus beau. Moi, c'est une idée du XVIIIe siècle, parce que chaque fois, ça impliquait des luttes et des combats importants pour mettre en place ces idées, parce que ça impliquait un combat contre ce qui n'est pas raisonnable. Si l'individu doit être raisonnable, il faut lutter contre les superstitions, les passions, tout ce qui est la déraison. Hein. Donc ça s'oppose à la déraison. Il faut que cet individu soit libre, donc il faut le libérer, il faut qu'il se libère, qu'il fasse la révolution et qu'il se libère. Et il faut qu'il ait une volonté, c'est-à-dire il faut que, justement, il puisse se prendre en charge lui-même. Il puisse complètement se prendre en charge lui-même. Ça, c'est la théorie, je dirais, qui est chez tous les penseurs de la fin du XVIIIe siècle et chez tous les penseurs de la démocratie, de la République, qu'on appelle ça République, démocratie, et pas seulement la République française. Hein. C'est à la base de la conception de la démocratie américaine, c'est à la base de la démocratie hollandaise, ça commence même un peu plus tôt, c'est à la base de la démocratie anglaise, même s'ils ont un roi, c'est quand même une démocratie. Donc, un individu qui doit être raisonnable, autonome et volontaire. Mais du coup, on ne veut rien savoir, c'est là où on va tomber sur la question de la communauté, on ne veut rien savoir de ces communautés, on ne veut rien savoir de ses appartenances. Cet individu, il est sans appartenance. Hein? Et d'ailleurs, il y avait une chose qui était très intéressante, une chose que vous, je ne sais pas si vous, on vous l'a appris en histoire, parce que les programmes d'histoire ne font pas trop attention à ça, c'est que pendant la Révolution française, une des premières décisions, je crois que c'était de la Convention, a été de dire que toute personne étrangère qui décidait d'adhérer aux idéaux de la Révolution française pouvait être ipso facto, du même coup, immédiatement citoyen. Et il y a même eu un certain nombre de députés étrangers à la Convention, c'est-à-dire des gens qui venaient d'Allemagne, qui venaient d'Italie. Par exemple, ici, vous avez à Marseille, vous avez une rue qui s'appelle la rue du jeune Anacharsis. Je crois que c'est en rapport avec un des députés allemands à la Convention qui s'appelait Anacharsis Klotz, qui avait adhéré aux idéaux de la Révolution française et qui était venu et qui avait été nommé député à la Convention. Il était devenu citoyen français uniquement parce qu'il adhérait à ces idéaux de raison, d'autonomie et de volonté. Mais du coup, ce que cet idéal démocratique, et on s'achemine vers les questions du communautarisme, ce que cet idéal démocratique laisse de côté complètement, veut pas voir, oublie, c'est que l'homme est en réalité aussi membre de communautés. C'est-à-dire que le citoyen, il est aussi un homme concret. Le citoyen est aussi un homme concret. C'est-à-dire que il vient de quelque part, il appartient à un groupe culturel, il a une religion, il a une mémoire, il a une histoire, il a des choses concrètes qui s'attachent à lui. Dans l'idée du civisme démocratique, il y a juste raison, liberté, autonomie et volonté. Ça, c'est pas concret. C'est très beau comme idéal, mais ça demande, disons, de faire abstraction de tout. À commencer par une chose, par exemple. C'est que pour cette conception de l'homme démocratique, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Le citoyen n'a pas de sexe. Il est ni homme ni femme. Il est raison, volonté et liberté. Chose que tous les hommes et toutes les femmes ont, mais qu'il y ait des différences dans la vie, ça ne compte pas. De la même manière, par exemple, et alors, ça allait très loin, parce que ce refus des conditions concrètes, de l'existence, avait des conséquences qui étaient beaucoup moins sympathiques, y compris pendant la Révolution française. C'est que, par exemple, ceux qui n'avaient pas la raison, ils étaient exclus de la citoyenneté. Bon, ça, à la limite, ça dit maintenant, il faut savoir qui c'est qui a une raison, qui c'est qui n'a pas une raison. Mais ensuite, ceux qui ne sont pas autonomes, par exemple, eh bien, ils ne peuvent pas être citoyens. Ça veut dire que, par exemple, pendant très longtemps, sous la Révolution française et par la suite, ben, comme par hasard, et pendant le 19e siècle, les femmes ne pouvaient pas être citoyennes. Pourquoi ? Parce qu'elles dépendent de leur mari. Elles ne sont pas autonomes. Elles peuvent pas avoir une volonté libre puisqu'elles auront l'idée de leur mari. Donc les femmes peuvent pas. Les femmes ont eu en France le droit de vote en 1946. Je veux dire, en Angleterre plus tôt, mais ça a été très long de faire rentrer les caractéristiques concrètes des gens dans le jeu démocratique. Autre personne qui n'avait par exemple pas le droit de vote, les domestiques. Les domestiques ne peuvent pas voter. Pourquoi ? Parce que les domestiques, ils dépendent de leur patron. Donc ils ne peuvent pas avoir de volonté autonome, ni de raison autonome. Et pendant très longtemps, les domestiques n'ont pas eu. Or, il y avait énormément de domestiques dans la France et dans l'Europe du 19e siècle. Énormément de domestiques. Même les gens qui n'étaient pas très riches, même les bourgeois modestes, avaient une bonne, comme on disait à l'époque. Bon, eh bien, les domestiques n'ont pas le droit de vote, parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils dépendent entièrement de leur patron pour leur subsistance, et donc ils ne peuvent pas avoir le droit de vote. Donc, en fait, il y a eu tout cet oubli, si vous voulez, des conditions. On prenait en compte les conditions concrètes, mais pour dire, bon, ben, ça ne sera pas des citoyens. Et donc le problème qui se produit, surtout quand les sociétés deviennent plus pluralistes, par exemple quand il y a des apports d'immigration, il y en a en fait toujours eu, quand les sociétés deviennent pluralistes, on a à se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte, je dirais, les caractéristiques concrètes des citoyens? Est-ce qu'on n'est pas obligé de réintroduire tout cet élément concret qui pèse sur la nature et la réalité du citoyen? Parce que c'est bien joli de dire à chacun d'entre nous, bon ben vous êtes une volonté, vous êtes une raison et vous êtes une liberté. Et puis le reste, on ne veut pas le savoir. Hein. Mais comme on fait remarquer, même très vite, dès la Révolution française, un certain nombre de penseurs, ils ont dit, c'est bien joli d'avoir une raison, mais si on n'a pas les moyens de l'exercer, alors on n'est pas un citoyen. C'est bien joli d'avoir une liberté, mais si on n'a pas les moyens d'exercer cette liberté, qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien joli d'avoir une volonté, mais si on n'a pas les moyens de vouloir ce qu'on veut parce qu'on n'a par exemple pas l'argent pour le faire. Donc on est obligé de réintroduire toutes les conceptions qu'on fait. Et alors l'idée de communautarisme, donc maintenant j'en viens à l'expliquer, l'idée de communautarisme, c'est l'idée que un individu ne peut pas vraiment être reconnu, pris en considération indépendamment de ses appartenances communautaires. Il ne peut pas être reconnu indépendamment. C'est en quelque sorte aller aux antipodes, à l'inverse de la conception démocratique de départ. La conception démocratique de départ consiste à nous dire, je reprends une feuille pour que tout le monde voit de loin. La conception démocratique nous dit un individu abstrait. Un individu abstrait qui est rationnel, autonome et volontaire. Et la conception du communautariste consiste à nous dire un individu concret, dans ses liens à sa communauté. Un individu concret dans ses liens à sa communauté, c'est-à-dire un individu avec ses croyances, avec son sexe, avec son genre, on dit pas sexe parce que c'est trop sexuel, on dit avec son genre sexuel, un individu avec son genre, le terme anglais c'est gender, un individu avec son genre sexuel, un individu avec ses appartenances religieuses, un individu avec ses appartenances ethniques, pourquoi pas, un individu avec ses appartenances culturelles, et que c'est la seule manière de prendre en compte réellement l'individu dans la société politique. Alors, le communautarisme, c'est une doctrine qui, finalement, donc du coup, ça explique peut-être pourquoi, pour ceux qui ont entendu parler de communautarisme, il y a aujourd'hui une sorte de conflit entre les partisans de ce qu'on appelle les partisans de la République. C'était le cas, par exemple, de l'ancien président de la République, M. Jacques Chirac, qui chaque fois qu'il faisait l'éloge de la République, faisait une dénonciation du communautarisme en disant « Nous sommes attachés à une France républicaine et contre tous les communautarismes. » Et puis, ce qu'on appelle les penseurs communautaristes, qui nous disent, en fait, il ne peut pas y avoir de société politique si on ne prend pas en considération l'individu avec ses appartenances communautaires. Le seul problème, et là je m'achemine vers ma conclusion, le seul problème, c'est que les communautés, il y en a beaucoup. Nos communautés d'appartenance, il y en a beaucoup. Et il y en a certaines qui ne sont pas forcément très faciles à mettre ensemble avec les autres membres des autres communautés. Parce que, pensez déjà une chose, je ne veux pas parler de communauté religieuse, mais je vais prendre des exemples tout à fait dans la vie quotidienne. Pensez déjà à être, vous êtes supporteur, dans vos appartenances en tant qu'individu, il y a le fait que vous êtes pour le Paris Saint-Germain, pour l'Olympique Lyonnais, voilà, exactement, votre réaction, c'est pour avoir cette réaction que j'ai dit ça. Moi je suis lyonnais, donc je suis pour l'Olympique lyonnais. Hein, voilà. Hein, vous êtes pour l'Olympique de Marseille. Bon, c'est pas l'appartenance. Vous serez d'accord avec moi, hein, même si vous êtes des fanatiques de l'Olympique de Marseille, vous serez d'accord avec moi que c'est quand même pas l'essentiel de la vie. Hein. C'est important, mais c'est pas l'essentiel de la vie. Donc, mais ça fait partie de nos appartenances communautaires. L'appartenance à un groupe de supporters, ou être fan de d'un artiste quelconque, culturellement, d'être branché sur quelque chose, ça fait partie de nos appartenances communautaires. Bon, or déjà, vous voyez que entre des supporters de l'Olympique de Marseille et un supporter de l'Olympique Lyonnais ou de Paris Saint-Germain, on n'est pas d'accord. Hein. Et si j'allais plus loin, je suis même sûr qu'à l'intérieur des supporters de l'Olympique de Marseille, il doit y avoir des clubs qui ne sont pas d'accord entre eux. Il doit y avoir des groupes de supporters qui sont en conflit. En tout cas, pour le Paris Saint-Germain, c'est bien connu qu'il y a des groupes de supporters qui sont extraordinairement opposés à d'autres. Hein. Bon, donc la question qui se pose quand on parle de communautarisme, c'est quels sont les liens aux communautés qui peuvent encore être, qui sont acceptables et qui sont, je dirais, gérables dans le cadre d'une société démocratique. Alors si on n'est pas dans une société démocratique, la question ne se pose pas, hein, parce que chaque communauté fait ce qu'elle veut, mais à la limite, il y a un gros risque que si elles sont trop proches l'une de l'autre, ça finisse en guerre civile. Donc là, mais disons que quand vous êtes dans votre communauté, je veux dire, si vous n'êtes pas en rapport avec d'autres communautés, il n'y a pas de problème, vous êtes bien, vous êtes ensemble. Mais quand vous êtes dans un monde où vous avez à être en relation avec beaucoup de groupes humains, beaucoup de communautés, eh bien, la question qui va se poser, et c'est peut-être pour ça que ça sera mieux maintenant d'en traiter en échangeant des jeux questions-réponses, la question qui se pose, c'est quelles sont les appartenances communautaires qu'on peut accepter dans une société démocratique, c'est-à-dire ça ne va pas mettre le feu aux poudres, et quelles sont les appartenances communautaires qui, en revanche, vont être extraordairement difficiles à gérer dans une société où il y a des gens appartenant à des communautés extrêmement différentes. Bon, les appartenances aux groupes de supporters, sauf quand il y a des morts, ce n'est pas absolument un gros problème à gérer dans une société démocratique. Il y a toujours des gens qui sont un peu la tête un peu échauffée certains jours, ou qui ont trop bu, ou qui ont un trop plein d'énergie. Bon, c'est pas trop difficile à gérer. Mais qu'en est-il, par exemple, des appartenances religieuses? Est-ce que on peut accepter pleinement, dans le jeu démocratique, des appartenances religieuses très fortes? Le principe français de la laïcité, c'est que non. C'est que non. C'est qu'on est dans un lycée, par exemple, qui est laïque. On n'est pas dans un lycée qui est confessionnel. Bon. Quelles sont les appartenances communautaires qui doivent être aménagées? Parce que certaines ne sont ni à condamner, ni à exclure, mais tout simplement qu'il faut les gérer. Par exemple, quand on parle de, et je terminerai là-dessus, quand on parle de la parité homme-femme dans les fonctions professionnelles, dans les fonctions politiques, sur les listes de candidats, c'est une manière de prendre en compte des appartenances à des communautés différentes en essayant d'aménager ça. Parce que on s'aperçoit, donc derrière tout ça, il y a le problème de ce qu'on appelle la discrimination positive. Donc j'ai essayé de vous montrer comment on passait de la notion d'identité à la notion d'identité de communauté, et comment ensuite cette identité de communauté pouvait plus ou moins être pensée en rapport avec un idéal ou une conception du citoyen démocratique. Alors maintenant, j'espère que vous savez un peu mieux ce que c'est que le communautarisme, et sinon on prendra d'autres exemples, et je m'en tiens là, j'ai 41 minutes, vous voyez. Et je vous donne la parole pour les questions.
En fait, pour ce que j'ai compris, ça parle sur l'individu. C'est sans moi.
L'individu, c'est-à-dire une raison, une volonté et une liberté. Et puis, il y a, je dirais, l'individu qui a toutes ses attaches, ses racines, ses attaches, ses héritages. Et puis qui peut aussi avoir ses projets. Hein. C'est-à-dire, ça, on n'en a pas parlé, parce que on peut avoir aussi une identité par rapport à des projets. Mais ça, on n'en parle pas ici. Mais c'est la différence entre un individu, je dirais, abstrait, tout nu, et puis un individu avec ses attaches concrètes. Si vous voulez, toutes les sociétés démocratiques même quand elles disent qu'il n'existe que l'individu abstrait, elles tiennent compte du fait que les individus ne sont pas abstraits. Par exemple, parce que si les individus si tous les individus devaient être considérés juste de manière abstraite, on pourrait donner le droit de vote aux enfants dès qu'ils ont l'âge de raison. Hein, en gros. Alors on ne le leur donnait pas, on le leur donne pas parce que, pas pour des questions de l'âge de raison, mais c'est parce qu'ils ne sont pas autonomes et qu'ils n'ont pas encore une volonté bien assurée. Mais par exemple, moi qui suis, je suis assez radical sur ces questions-là, je pense qu'on pourrait abaisser de manière assez importante l'âge du droit de vote. Parce que du point de vue des... moi je trouve que les adolescents aujourd'hui sont assez autonomes, qui savent assez bien ce qu'ils veulent en général, en tout cas ils le savent aussi bien que les gens qui sont très âgés, hein, et que pour ce qui est du raisonnement, ils raisonnent à peu près correctement par rapport aux gens qui sont là encore un peu fatigués et usés. Hein. Donc, mais vous voyez, je veux dire, être concret, c'est être un enfant, avoir l'âge du droit de vote, arriver à la citoyenneté, voilà, ça c'est le concret. Et puis ensuite, venir de tel quartier, avoir telle religion, avoir telle couleur de peau, c'est ça tout le concret. Hein? Alors, est-ce qu'on doit en tenir compte? Est-ce qu'on n'en tient pas compte? C'est ça qui sont tous les problèmes qui sont derrière le communautarisme. Alors, ça peut aller quelquefois très loin. Je vous donne un exemple communautariste que je n'ai pas donné, parce que je le gardais pour quand on discuterait. C'est-à-dire que, par exemple, au Québec, au Canada, qui est un régime aujourd'hui très décentralisé et très démocratique. Bon. Mais où en même temps, il y a, comme dans les États, comme aux États-Unis aussi, il y a une très forte culpabilité par rapport aux premiers occupants du Canada. Parce que, en fait, tous les Canadiens, à presque à 99,9%, les Canadiens sont des envahisseurs. Ce sont des Anglais, des Français, ce sont des gens qui sont venus s'installer là où étaient les Indiens. Bon. Donc, la pensée communautariste est très forte au Canada parce qu'elles disent qu'il faut finalement redonner leur place aux anciennes communautés, communautés indiennes par exemple, qui ont été les Iroquois, tous les Indiens qui ont été chassés, en général quasiment anéantis par les colonisateurs anglais et français, hein, normands, etc. Et donc, il faut respecter leurs coutumes. Leur donner des territoires autonomes. Et ça entre en conflit avec les principes démocratiques de la société canadienne. Parce que vous avez des réserves de très grandes, des territoires indiens très importants, qui sont en autonomie, et où, d'une certaine manière, les Indiens peuvent se gérer selon leurs coutumes. Alors, deux choses d'une. Ou bien, c'est juste une réserve, si vous voulez, comme une sorte de zoo, hein, une réserve où ils font ce qu'ils veulent, comme des animaux qui sont dans un zoo. Ou bien, à l'intérieur d'un régime démocratique, ça introduit des exceptions juridiques très étonnantes. Donc, s'ils n'ont pas le même type de droit, s'ils n'ont pas le même type de code des relations sexuelles, s'ils n'ont pas le même type de croyances alimentaires, bon, alors il y a certaines choses qui peuvent être très facilement acceptées, il y en a d'autres qui ne le seront pas. Et par exemple, au Québec, récemment, il s'est posé une question. Puisque les Canadiens ont beaucoup avancé en faveur du communautarisme, il y a eu des communautés musulmanes au Québec, parce qu'il y a une très forte politique d'immigration contrôlée, notamment au Québec français, et à partir du moment où les immigrants parlent le français, viennent de pays avec des francophones. Ce sont un certain nombre de groupes communautaires d'immigrés ont demandé à bénéficier du même statut que les Indiens. Et du coup, ils ont dit, mais nous, on veut appliquer la charia, par exemple. Ça a été une discussion qui s'est posée, ça ne s'est pas posé beaucoup, parce que tout le monde a sauté en l'air, mais ils ont dit, vous donnez une grande autonomie à ce qu'on appelle les peuples premiers, hein, les first people, les peuples premiers, les Indiens, ceux qui étaient là avant, et nous, nous sommes des communautés aussi, nous avons nos racines, et nous voulons bénéficier aussi. Alors à ce moment-là, vous êtes dans un clash très important, vous voyez ce que je veux dire, c'est un clash très important entre les règles de la société démocratique et puis les règles communautaires. Voilà. Alors, dans certains cas, ça ne pose pas problème du tout.
Hein? Dans d'autres cas, selon les types de racines en cause, de croyances en cause, ça pose des problèmes. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas?
Moi, j'ai entendu que quelqu'un demandait ce que c'était que la charia.
Ouais.
Est-ce que vous avez compris ce que c'était?
La charia, c'est le code, c'est le droit tel qu'il est, c'est le droit islamique, c'est le droit tel qu'il est défini par le Coran. Donc le droit de d'avoir plusieurs femmes, le droit de battre sa femme, le droit de... Non, soyons sérieux, il n'y a pas que ça, hein. Non, il n'y a pas que ça, il y a aussi un rapport, par exemple, à l'argent qui est différent, il y a un rapport à l'humanitaire qui est différent, c'est tout l'édifice qui est différent.
L'identité et le communautarisme,
c'est pareil. La question de l'identité communautaire, c'est pareil. Non, justement, mais je dirais que l'identité a des conditions dans votre communauté. Parce que vous n'avez pas seulement votre... Par exemple, si je dis qu'une des conditions de votre identité, c'est vos souvenirs. Dans vos souvenirs, il n'y a pas seulement vos souvenirs. Il y a aussi vos souvenirs culturels, il y a vos souvenirs familiaux, il y a vos souvenirs d'un passé très lointain, des autres générations. Donc, d'une certaine manière, votre identité, elle a à voir avec votre communauté d'origine. Et j'ajouterais, pas seulement avec votre communauté d'origine, mais à voir avec toutes vos communautés. Parce que vous appartenez à plusieurs communautés. Vous, par exemple, vous avez une communauté d'origine familiale, je ne sais pas laquelle elle est, mais vous avez aussi une communauté marseillaise, par exemple, aujourd'hui. Et c'est peut-être la même, parce que les choses se sont fusionnées. Vous voyez, c'est que l'identité, elle est fabriquée de tout ça.
Tout à l'heure, vous avez dit que c'est le droit de battre sa femme. Je suis désolé. Depuis quand un musulman a le droit de battre sa femme?
Oui, mon musulman.
Voilà, je vais reformuler sa question. En fait, ce que vous avez dit comme quoi que les musulmans, ils sont au courant, comme quoi qu'il a écrit on a le droit de battre sa femme, qu'on vient avec plusieurs femmes. Il n'a jamais écrit ça. Il n'a jamais écrit ça.
Je suis musulmane, je crois que vous êtes au courant. Je suis désolée, mais il n'y a pas écrit de frapper sa femme. Mais il y a écrit le droit de se marier avec quatre femmes. Donc, c'est vrai, mais de frapper sa femme, il n'est pas écrit.
Quand on essaye de faire ce genre de raisonnement, on essaye d'être le plus honnête possible, et moi comme vous, hein, avec les idées, y compris les idées qui ne nous plaisent pas. Alors, je n'ai pas du tout dit que la charia, c'était ceci ou cela, parce que, justement, le problème qu'il y a, là, je pense que vous serez pas, ceux qui sont musulmans ici et ceux qui ne le discuteront pas, c'est que, justement, il y a des conflits d'interprétation très importants sur le texte du Coran. Donc il y a certains qui adoptent des lectures, comme on dit, radicales, en disant on a le droit d'épouser plusieurs femmes, on a le droit de battre sa femme, ceci ou cela, on a le droit de tout ce qu'on veut, peu importe. Et puis il y a ceux qui disent non, c'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres sourates qui vont en sens inverse, etc. Ce que je veux ajouter, aussi, parce que, attendez, si ça vous intéresse, ça... si ça vous intéresse vraiment, allez donc sur le site utls.fr que je vous ai indiqué, parce qu'on a récemment organisé 13 conférences sur les islams contemporains, et où toutes ces questions ont été traitées, et je dirais, y compris, et pas par des Européens, hein, par beaucoup d'intellectuels venus d'Afrique du Nord, d'Afrique tout court, d'Afrique du Sud, etc. Et on a bien perçu tout ça, et allez écouter les conférences, vous verrez, c'est réellement intéressant. Ensuite, il s'ajoute une chose, et ça je l'ai appris aussi dans les conférences que j'ai organisées, hein, c'est pour ça que je vous en parle à l'aise là maintenant, c'est que d'autre part, l'islam est une religion sans autorité théologique, sans autorité, sans un organisme ou des personnes qui soient absolument les seules fondées à dire la vérité sur l'islam. C'est-à-dire que l'islam, la religion chrétienne, il y a une autorité théologique dans la religion chrétienne, catholique, c'est le pape. Le pape a une autorité pour définir les contours de la foi. Ça change avec les papes, hein, mais il a une autorité. Et il y a ce qu'on appelle, nous, des théologiens. On a même des théologiens très célèbres du passé, comme par exemple saint Thomas d'Aquin, saint Augustin. Il y a des théologiens qui ont une autorité supérieure. Dans l'islam, il n'y a pas d'autorité supérieure. D'une certaine manière, il y a des interprètes et il y a des conflits d'interprétation. C'est pour ça que je ne m'engagerai pas pour vous dire ce que c'est que la charia. Par exemple, ce qui nous a, une des conférences les plus intéressantes qu'on a eues, c'était une conférence sur le droit islamique aujourd'hui, et où c'était extrêmement intéressant de voir, c'était par un juriste tunisien, c'était extrêmement intéressant de voir que, étant donné qu'il y a des interprétations très différentes du droit islamique, pour nous, c'est presque inintelligible. Étant donné qu'il y a des interprétations très différentes, des traditions interprétatives très différentes du droit islamique, quand on veut plaider une affaire, on choisit les juges de la tradition qui vous intéresse. C'est-à-dire qu'on ne va pas porter une affaire devant le même juge selon la différence des affaires. C'est-à-dire qu'on choisit, en gros, on essaye de choisir une tradition d'interprétation du droit qui vous arrange par rapport à l'affaire que vous avez. En France, ça existe un petit peu, mais sous une forme beaucoup plus détournée, c'est selon l'endroit où vous allez intenter un procès. Parce qu'on sait que, par exemple, si vous intentez un procès, par exemple, pour la presse, c'est une chose qui est maintenant connue, si vous intentez un procès à un journal, vous avez plus de chances d'avoir raison si vous l'intentez à Nanterre que si vous l'intentez à Marseille, par exemple. Je donne cet exemple-là. Mais ça, c'est juste des phénomènes, je dirais, purement géographiques. Tandis que dans la tradition du droit islamique, il y a plusieurs manières d'interpréter, plusieurs écoles qui remontent à très longtemps, et d'une certaine manière, ben, on essaye de choisir ce qui vous arrange. Hein. Donc, je ne dirais pas que la charia, c'est ceci, la charia, c'est cela. Il y a différentes traditions d'interprétation. Mais ce que je voulais dire, en revanche, pour le cas du Québec, c'est que des communautés d'immigrés d'origine africaine et nord-africaine, des immigrés récents, avaient dit, nous voulons bénéficier des mêmes règles communautaires et communautaristes que les peuples d'origine, les peuples premiers, les Indiens du Canada, puisqu'ils y ont droit, nous aussi, en tant que communauté, nous y avons droit, et ils ont demandé à bénéficier, à avoir certaines règles régissant les relations des membres de la communauté selon le droit islamique. Cette source, c'est donc la source, la révélation. Donc que vous avez dans l'islam, hein, qu'on a aussi dans l'islam, il y a la révélation. Et la révélation, elle, c'est le texte sacré. Et le texte sacré, il doit être interprété. Voilà, on doit l'interpréter. Et d'une certaine manière, contrairement à ce que je vous ai dit, mais c'est pas forcément une contradiction, chaque croyant peut interpréter. C'est la raison, c'est le conflit sur l'interprétation a donné naissance à la scission entre les catholiques et les protestants. C'est-à-dire que les catholiques voulaient maintenir et maintiennent toujours l'autorité du pape. Il y a des autorités qui disent comment il faut interpréter. Et les protestants considéraient que chaque croyant, est tout seul face à l'interprétation du texte sacré. Bon, c'est une situation. Mais l'autre source de la croyance religieuse dans la tradition européenne, c'est le raisonnement philosophique. Le raisonnement philosophique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu. En gros, hein. Et ça commence très tôt. Alors, c'est probablement dû au fait que l'Europe a eu très tôt une philosophie, c'est une activité de raisonnement intellectuel, logique, conceptuel, très développée, et que ce courant grec, qui est antérieur au courant catholique, chrétien, ce courant grec s'est mélangé avec le courant chrétien et a fait valoir les droits de la raison en matière religieuse, c'est-à-dire qu'on peut essayer de prouver l'existence de Dieu. Alors il existe, pratiquement tous les philosophes jusqu'au XIXe siècle ont présenté des preuves de l'existence de Dieu, et souvent certains étaient des théologiens, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de sciences, ça c'est la théologie, c'est la théologie rationnelle, ce qu'on appelle, et ça c'est la théologie révélée. D'un côté la révélation, de l'autre le raisonnement. Donc on essaye de prouver par le raisonnement Et donc c'est une activité qui est beaucoup plus logique, conceptuelle et intellectuelle que l'activité d'interprétation. Enfin, je donne un exemple de preuve de l'existence de Dieu. Il y en a trois ou quatre en général. C'est ce qu'on appelle la preuve physico-théologique. Physico-théologique, c'est le monde existe et le monde est régi par des déterminations causales. On peut remonter de déterminations de cause en cause, mais il y a un moment où il faut trouver une cause première. Cause première, la cause de tout. Et donc, c'est à ce moment-là que certains penseurs théologiens vont poser Dieu comme cause première du monde. Mais c'est un raisonnement de causalité. C'est un raisonnement de causalité. Je commence par la cause d'un objet, la cause des séries causales, et puis il faut bien qu'à un certain moment, je trouve un Dieu qui est la cause originaire, la cause première de tout cela. Ça, c'est la théologie rationnelle. Et puis de l'autre, c'est la théologie révélée. Et je ne veux pas m'éterniser là-dessus pour que vous compreniez cette théologie, mais il y a toujours eu un conflit entre les deux. Toujours eu un conflit. Parce que dès que vous commencez à raisonner, vous avez un risque, c'est que vous n'y croyez pas, en disant les preuves ne marchent pas. Tandis que tant que vous êtes dans la révélation, c'est vous êtes d'une certaine manière, entre guillemets, tranquille, parce que il y a le livre, il dit ce qu'il dit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pratiquement pas de théologie rationnelle en islam. Ça, c'est vrai. Il y a un petit peu de théologie rationnelle en islam, mais très très tôt, vers le 9e siècle, 8e, 9e, 10e siècle, c'est-à-dire, doit être l'Égypte, c'est autour de 600, c'est trois siècles après, en Espagne, comme par hasard, en Espagne, parce que les gens ont été, les penseurs islamiques de l'époque, les théologiens, presque les seuls théologiens de l'islam, qui ont été des gens exceptionnels, étaient très fortement influencés par la philosophie grecque. Et que c'est même en partie eux qui nous ont transmis la philosophie grecque. C'est que si la philosophie grecque est arrivée en Occident, pendant le Moyen-Âge, c'est en grande partie parce que c'est des penseurs arabes qui nous ont communiqué les manuscrits et qui nous les ont fait comprendre. Donc, il y a une théologie islamique, mais elle dure très peu de temps. Et d'ailleurs, c'est une chose que je dis tout le temps, s'il y en a un d'entre vous un jour qui va voir ça, ça me suffira, c'est que quand vous regardez l'histoire de la pensée musulmane, la pensée théologique musulmane, en général, elles font 5 à 600 pages, c'est très gros, mais vous avez presque 500 pages jusqu'au 11e siècle. Puis après, vous n'avez plus rien. Parce que, après, la théologie rationnelle a disparu et qu'il ne reste plus que de l'interprétation religieuse. Mais le risque de la théologie, c'est quand vous commencez à en faire, c'est que vous pouvez devenir athée. Comprenez? Parce que si vous vous apercevez que vos preuves ne marchent pas, vous commencez en croyant, et puis à la fin, vous dites, non, elles ne sont pas convaincantes, mes preuves. Donc, si vous êtes un vrai croyant, il ne faut surtout pas faire de théologie. Thank you.